Donc jusqu'à présent, nous sommes en train de voir les raisons pour lesquelles nous pouvons croire. Nous pouvons croire en Dieu, nous pouvons croire en la Bible, en son message. Et nous regardions justement d'un peu plus près pourquoi croire dans le fait que la Bible est vraie. Nous avions parlé de son exactitude historique, que l'archéologie apporte beaucoup d'éléments qui confortent ce que la Bible dit. Les raisons de croire aussi par rapport aux prophéties accomplies, accomplies avec beaucoup de précision, mais également de voir ce soir que la Bible contient aussi de la science. Okay, nous allons voir à son exactitude scientifique. Et je suis pleinement conscient que juste cette simple phrase, associer la Bible avec la science, ça peut interloquer beaucoup de gens. Certains vont ne pas comprendre, il y aura beaucoup d'incompréhension par rapport à cela. Et chez d'autres, peut-être même le simple fait de se dire que la Bible contient des informations scientifiques, voit ça comme une incohérence. Parce que pour eux, la Bible et la science n'ont rien de commun. Cela peut susciter parfois des moqueries, parfois même du mépris ou de l'indifférence, quand on essaie de montrer que la Bible donne beaucoup d'éléments scientifiques. Mais ce soir, je vais aussi réitérer le fait que, tout comme nous avions vu eh bien, l'exactitude historique de la Bible, ça ne voulait pas dire qu'on va prendre la Bible comme un manuel d'histoire. Tout comme si on prend la Bible, on ne va pas la prendre comme un manuel de science parce qu'elle contient des éléments scientifiques dedans. Okay? Ce sont des aides précieuses. Parce que l'histoire qui est relatée dans les écrits bibliques, eh bien, ont aidé beaucoup d'archéologues, par exemple, à trouver des informations sur le passé, sur l'Antiquité, etc. Tout comme il y a des éléments dans les Écritures qui ont aidé dans des découvertes scientifiques, même, on va dire, redécouvertes scientifiques, parce que j'aime bien le fait qu'aujourd'hui, l'homme moderne, il a toujours la prétention de savoir mieux que ce que les autres savaient dans le passé. Or, c'est faux. Si on prend juste la science des mathématiques, on doit tout à ceux qui vivaient à l'Antiquité, pratiquement. Mais voilà. Tout ce qu'elle affirme en termes de science, la Bible, s'avère exact. Okay? D'abord, définissons ce que c'est que la science. Parce que la science, si on regarde à ce que c'est l'observation, c'est l'identification, la description, c'est aussi l'investigation expérimentale, l'explication théorique des phénomènes que nous connaissons dans notre monde. D'accord? La science, c'est surtout une méthode que l'homme peut utiliser pour acquérir une meilleure compréhension de l'univers naturel, du monde dans lequel il vit. Et c'est une recherche de connaissances, une recherche de connaissances par l'observation. C'est-à-dire qu'on regarde, on analyse, on découvre, on trouve, on suppose, on déduit. Mais voilà, pour qu'une théorie soit reconnue vraiment comme un fait scientifique, eh bien, elle doit être observable, elle doit être également démontrable. Alors, quelles sont ces déclarations que nous avons dans la Bible qui sont exactes en matière de science? Et le premier qu'on va regarder, eh bien, c'est ce qu'on appelle la suspension de la Terre dans l'espace. D'accord? On ne pense pas souvent à cela comme une grande découverte scientifique, parce que nous, on a toujours été enseignés à l'école les sciences, d'apprendre les planètes, et même si je sais que depuis le temps où moi j'ai appris les planètes, et aujourd'hui, ben, il y en a une de moins, le fait est que, bon, on sait que comment est notre univers, les éléments qui la composent. Mais dans le livre de Job, et on a ce verset de Job 26, le livre de Job, c'est probablement parmi l'un des plus anciens livres de la Bible. D'accord? Bon, il y a encore des débats par rapport à qui a écrit le livre de Job. Il y a deux hypothèses. La première, c'est Moïse, qui semble peut-être être la plus probable. Ensuite, certains supposent que Salomon aurait pu rédiger également le livre de Job. Mais ce que l'on sait en lisant le livre de Job, c'est que ça se passe à une époque antérieure à Moïse. C'est avant L'époque de Moïse, probablement à l'époque des patriarches. Bon, un élément qui nous aide à, on va dire, déduire cela, c'est le nombre d'années, par exemple, que Job a vécu, hein, un peu plus de 200 ans. Si on compare ça au nom que l'on a dans la liste des différents patriarches et le nombre d'années qu'ils ont vécu, on peut situer ça à peu près à une période. Parce que ce que l'on voit dans la généalogie, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure, ils vivaient moins longtemps, n'est-ce pas? Et donc, par rapport à cela, on peut situer hein, vraiment l'histoire du livre de Job, eh bien, au moins hein, à l'époque des patriarches, probablement un peu plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais le livre de Job, au chapitre 26 et verset 7, nous dit ceci: Il étend le septentrion sur le vide et il suspend la terre sur le néant. Et ce qu'on a là ici, en fait, c'est une déclaration de ce qui existe vraiment. C'est-à-dire que la terre, eh bien, elle est suspendue de ce que, dans ce que on peut appeler le néant, le vide ou même l'espace, et elle est maintenue là. Et il faut comprendre que il y a eu beaucoup de peuples qui ont eu différentes idées sur comment le monde était composé, comment hein, l'univers fonctionnait. Hein, on peut regarder à ce que les Égyptiens avaient écrit également. Mais on va déjà regarder surtout bon, aux Grecs, parce que les Grecs ont eu beaucoup d'avancées scientifiques dans les maths, dans l'astronomie, etc. Et parmi eux, il y en avait un qui s'appelait Thalès de Milet, qui était philosophe et savant grec, hein, qui a vécu entre 625 et 545 avant Jésus-Christ. Mais lui, son idée, c'est que l'univers était comme un genre de bulle d'air, hein, hémisphérique, et que la Terre, en fait, flottait sur l'eau. Et c'est ce qui la maintenait. Alors, je veux juste dire, aujourd'hui, on regarde à ces théories-là comme étant, bon, c'est vraiment du n'importe quoi. D'accord? Faut aussi se mettre à la place des gens à l'époque et ce qu'ils étaient capables d'observer et les hypothèses qu'ils ont émises, bon, c'était des hypothèses qui, de leur point de vue, étaient quelque chose de possible sans pouvoir vraiment prouver quoi que ce soit là-dessus. Son successeur, le philosophe et savant grec Anaximandre de Milet, hein, qui vécut entre 610 et 546 avant Jésus-Christ, lui avait conçu un modèle mécanique du monde qui représentait l'univers comme étant une sorte de grand tourbillon hein, où la Terre flottait en équilibre immobile au centre de l'infini sans être soutenue par quoi que ce soit. Donc on sait que à travers le monde, les êtres humains ont cherché à comprendre comment le monde fonctionnait. La Bible, elle, eh bien, à travers Job, donc plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, elle déclare que la terre était suspendue dans le néant, qu'elle flotte donc dans l'espace. C'est Jérôme, avec la publication de la version latine de la Bible, qu'on appelle la Vulgate au IVe siècle, qui était un brillant exégète, hein, qui connaissait bien l'hébreu et le grec, il fait cette précision hein, que l'Écriture appelle vide et néant l'espace. Hein, quand on parle même de l'espace, on regarde, on se dit, ben, bon, c'est vide, tout en sachant que bon, il y a des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. Le fait qu'il y a rien de vivant ou quoi que ce soit, on regarde ça comme le néant, comme le vide. Et donc, quand Job parle de cela, quand il parle de la Terre qui est donc suspendue dans le néant, on comprend bien que voilà, c'est cette notion que notre Terre, notre planète est suspendue donc dans l'espace. Deuxième chose que nous pouvons voir, c'est ce qu'on appelle la rotondité de la Terre. Alors pour ceux qui aiment le Scrabble, un bon mot hein, que vous pouvez garder en mémoire. En ce moment, on en fait beaucoup avec Anthony hein, de jouer au Scrabble. On parle ici du fait que bon, la Terre est ronde, hein, circulaire. Là encore, on retrouve Thalès de Milet, hein, qui au VIe siècle avança cette idée que la Terre est ronde. Et d'autres peuples avaient cette même notion. D'ailleurs, en 1899, des archéologues découvrirent à Sippar, au sud de l'Irak, une carte babylonienne qui représentait le monde. Et cette tablette date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et sur cette carte, qu'est-ce que l'on voit? On voit donc un cercle. Hein, elle est tracée donc sur une tablette d'argile qui montre Babylone, etc. Mais on comprend que cette notion, hein, d'une terre qui soit circulaire est quelque chose qui date de longtemps. Mais encore plus longtemps avant cela, 8e siècle avant Jésus-Christ, la Bible déclare déjà que la terre est circulaire. Hein, dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, hein, qui a vécu au 8e siècle, et au chapitre 40 et verset 22, il dit: c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Hein, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles, il étend les cieux comme une étoffe légère, il se les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Après, on a ce qu'on appelle donc les lois de la thermodynamique. Hein, on en parle souvent, hein, quand on étudie par exemple le créationnisme, quand on étudie, hein, cette divergence de points de vue, de perspectives sur l'origine du monde et de l'être humain, on va parler de ces lois de thermodynamique. Hein, la thermodynamique, c'est une branche de physique qui traite justement, eh bien, des dépendances, ce qu'on appelle des propriétés physiques des corps, hein, à la température, des phénomènes où interviennent les échanges thermiques, etc., et des transformations de l'énergie entre différentes formes. Hein. On va regarder à comment, hein, fonctionne l'énergie. Dans Genèse, chapitre 2 et verset 1er, il y a ce simple verset, hein, qui dit: ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. On ne va pas forcément prêter beaucoup attention à ce verset-là. On se comprend, oui, voilà, Dieu, il a créé toutes choses, hein, les cieux furent achevés, la terre, et ainsi de suite. Bon, le mot hébreu qui est utilisé ici, hein, il est composé, hein, du verbe, il est au passé composé, pardon, et c'est donc le verbe terminer, achever, hein, ça indique une action qui ne se reproduira plus jamais, en fait. Hein, la création était quelque chose d'achevé une fois pour toutes. Et quand on regarde justement à la première loi de la thermodynamique, hein, c'est une loi qui parle de la conservation de l'énergie, hein, de la masse, et cette loi stipule que ni la matière ni l'énergie ne peuvent être créées ou détruites. C'est-à-dire que pour eux, bon, l'énergie, elle est là, et une fois qu'elle est là, bon, elle est là. Et bon, nous, on regarde d'un point de vue biblique au fait que, bah, Dieu, il a créé un monde, il a créé un monde aussi qui était dans son aspect, mais aussi dans la création de l'homme et de la femme. Il a créé les choses, bon, l'homme et la femme, il les a créés adultes. Le monde qui existe, il a pas juste, voilà, planté une graine en disant que, bon, voilà, dans 20 ans, on aura un joli cèdre ici. Il a créé toute chose déjà établie. Okay? Mais aujourd'hui, il n'y a pas de création. Tout ce qui a été créé existe. Et tout est donc achevé dans ce sens-là, exactement comme le dit la Bible. Un autre passage à considérer, c'est le psaume 102, les versets 26 à 27, où il dit: tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit et ils seront changés. D'ailleurs, la Bible nous dit, hein, au moins à trois reprises que la terre s'use comme un vêtement. Et ce principe-là, le fait que, voilà, les choses ont été créées, mais les choses se détériorent. C'est ce que nous trouvons dans ce qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique, de l'entropie croissante, c'est que, bah, tout système ordonné tend à devenir de plus en plus désordonné au fil du temps et donc se détériore. Hein, si vous voulez un bon exemple de cela, c'est vous prenez une pomme et vous la laissez sur votre comptoir pendant 2 semaines. Qu'est-ce qui arrive à la pomme? Hein, elle va se détériorer et pourrir et puis être réduite, hein, à quelque chose qu'on veut même plus toucher. Hein. Et donc tout s'épuise et s'use à mesure que l'énergie devient de moins en moins disponible. Ça signifie que l'univers, bah, finira, hein, éventuellement par s'épuiser. Hein, c'est un phénomène que la science n'a découvert que récemment, en fait. Autre chose que nous allons regarder, c'est le cycle de l'eau, hein, le cycle hydrologique. C'est un phénomène qui n'a été vraiment pleinement compris que vers le XVIIe siècle, mais la Bible en parle de manière très précise, déjà dans le livre d'Amos. Amos, hein, c'est un livre qui, par rapport à nous, il a été écrit il y a au moins 2800 ans. Et dans ce verset 6 de chapitre 9 du livre d'Amos, il dit ceci, il dit, il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Okay. Que nous dit ce verset? Ce verset, il est en train de nous dire, de nous expliquer le processus de comment la pluie fonctionne. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que, voilà, il y a l'évaporation de l'eau, hein, de la mer, des océans qui se produit, qui forment les nuages qui arrivent sur les continents et qui, chargés d'eau, ben, finissent par produire de la pluie. 2800 ans avant. D'autres passages aussi, hein, Ecclésiaste chapitre 1er verset 7 nous dit tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie, elle continue à aller vers le lieu où ils se dirigent. Le psaume 135 verset 7 également, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit des éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Et on revient à Ecclésiaste 11 3, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Bien sûr, sauf s'il y a quelqu'un qui vient de découper le bois et le prendre chez lui, mais voilà, ça ne bouge plus une fois que c'est coupé. Mais tous ces versets parlent en fait de ce différent de ce processus du cycle hydrologique, du cycle de la pluie. Et c'est extraordinaire, extraordinaire de savoir que dans la Bible, un livre aussi ancien, eh bien les gens avaient cette connaissance-là. Et que Dieu a choisi d'inscrire ces informations-là dans sa parole. On va prendre encore juste quelques minutes encore pour continuer. Je crois qu'on terminera juste avec ce point-là ce soir, parce que c'est en rapport aussi avec les océans encore. La science de l'océanographie. Il dit quoi? La Bible parle d'océanographie? Bon. Il y a un homme. Un ancien marin de l'US Navy, du nom de Matthew Maury, il a grandement influencé différents domaines hein, par ses recherches et les choses qu'il a découvertes hein, dans l'astronomie, l'océanographie, la météorologie également, la géologie, etc. Grâce à ses observations et son implication dans ces différents domaines, il est vraiment reconnu comme quelqu'un ayant grandement apporté à la science. Il a été également cartographe, hein, auteur et puis historien. Et donc, c'était un navigateur, un cartographe marin, et par ses compétences, il a pu établir hein, des nouvelles routes, des chemins pour les bateaux, qui permettaient de gagner un grand nombre de jours hein, dans les voyages par rapport à ce qui était fait à l'époque. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est basé sur un verset de la Bible qu'il avait lu, et c'est ce qui l'a engagé à poursuivre ses recherches. Et ce verset, c'est dans le psaume chapitre 8 et verset 9, où il parle des poissons de la mer et tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Et ça l'a amené à réfléchir. C'est quoi ces sentiers, hein, ces chemins de la mer? Et donc, grâce à cela, hein, il a pu déterminer que oui, il y a des courants marins. Hein, il y a des courants marins qui ne changent pas, qui sont les mêmes. Et en utilisant ces courants marins, il a permis à ce que eh bien, les navires puissent voyager plus rapidement. Voilà, ce que l'homme a découvert concernant l'existence hein, de ces courants océaniques, voilà, 2800 ans avant, la Bible en parlait déjà. Hein, c'est là, encore une fois, un élément scientifique que la Bible déclare et que c'est finalement, on va dire, assez récemment hein, que la science a pu dire oui, c'est comme ça que ça fonctionne, oui, on trouve ça. Et avec ces différents éléments hein, où on voit l'exactitude scientifique hein, de la Bible, je dis encore une fois, hein, je ne dis pas que la Bible est un manuel de science, mais ce que je dis, c'est que on est en train de voir si on peut faire confiance à ce que la Bible nous dit. si on peut la prendre au sérieux. Okay? Et je sais bien que quand je parle de ces éléments scientifiques qui sont vérifiés, qui sont mentionnés dans la Bible, d'autres vont me dire, oui, mais les miracles, c'est pas scientifique. La résurrection, c'est pas scientifique. Le problème souvent, c'est que les gens qui ont ce genre d'argument-là, ils ne veulent pas accepter de mettre dans l'équation, ben justement, le facteur Dieu. D'accord? On enlève Dieu de l'équation, ben oui, c'est impossible pour quelqu'un de marcher sur les eaux. On enlève Dieu de l'équation, oui, c'est impossible de multiplier les pains, les poissons. On enlève Dieu de l'équation, oui, c'est impossible pour quelqu'un de guérir un paralytique. On enlève Dieu de l'équation, oui, c'est impossible que quelqu'un ressuscite des morts. Et on est d'accord là-dessus. Mais quand on a un ouvrage qui, déjà par son exactitude historique, par son exactitude en archéologie et puis dans la science, nous montre qu'il y avait déjà à cette époque-là une grande connaissance dans les sciences, et que on a le témoignage de personnes qui ont vu et vécu ces événements-là et qui nous les rapportent, eh bien ça donne du poids. Ça donne du poids à leur témoignage, ça donne du poids au texte biblique, hein, de ce que nous pouvons avoir confiance dans ce qu'elle nous rapporte. On continuera, Dieu voulant, donc la prochaine fois, en voyant d'autres éléments scientifiques que nous trouvons dans la Bible et qui donc nous encouragent déjà à regarder à ce livre comme étant vraiment un livre merveilleux, hein, par rapport à tout ce qui peut exister sur Terre. C'est vraiment un livre merveilleux.